Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Megillah, page 9, Daf Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Amar Rava Lokashia. Répond Rava, cela n'est pas une question. On change de page, on se trouve Daf Tet Amud Aleph. Kan de Goufan Shelanu, Kan de Goufan Shelahen. La Mishnah qui rendait le livre valable. Parler du cas où c'est que le langage qui a été changé, qui a été traduit, mais non pas l'écriture. L'écriture est toujours avec l'alphabet de la langue sacrée, tandis que la Braïta qui interdisait la traduction, parlait du cas où l'écriture aussi a été changée. Amar le Abaye, bemay ukimta lea ubegufan shelahen, a demandé Abaye à Rava, comment tu peux dire que la Braïta parlait que du cas où la modification concernait l'écriture et le langage? S'il en est ainsi, Maïrie Mikra Shekatvo Targum Vetargum Shekatvo Mikra, Afilum Mikra Shekatvo Mikra, Vetargum Shekatvo Targum, Nami. Dès l'instant où l'écriture du livre a subi une modification, le livre n'est plus valable. Alors pourquoi la Braïta devait préciser que le langage a aussi subi une modification et le araméen a été écrit en langue sacrée et la langue sacrée en araméen? Même si le langage d'araméen est resté araméen et le langage de la langue sacrée est resté en langue sacrée, déjà, cela n'est plus valable, puisque l'écriture a été modifiée. De Aktani Atir Tevenu Ashurit Ala Sefer Bidio. Et la Braïta même disait que tant que l'alphabet de l'écriture n'est pas l'alphabet de la langue sacrée sur du parchemin et avec de l'encre, le livre n'est pas valable. Et là, Lokashia Ha Rabbanan Ha Rabbi Shimon Ben Gamliel. C'est pour cela que Abaye nous propose une nouvelle réponse. La Mishnah qui permettait les langues étrangères était dite d'après l'opinion de Rabbanan, tandis que la Braïta qui interdisait les langues étrangères était l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel qu'on a vu dans la Mishnah, qui permettait que le grec et non pas les autres langues étrangères. Demande la Gemara, « I Rabban Shimon ben Gamliel, haïkayevanit. » Si tu vas dire que la Braïta a été dite d'après l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, pourquoi la Braïta interdisait toutes les langues étrangères puisque Rabban Shimon ben Gamliel permet la langue grecque? Et là, l'okashia. Alors la Gemara propose une nouvelle réponse. Kan besfarim, kan betfilin ou mezuzot. La Mishnah qui permettait les langues étrangères parlait exclusivement des livres de la Torah, des prophètes et des hagiographes. Mais comme la Mishnah précisait explicitement, les tfilin et les mezuzot seront pas valables, seront interdits en langue étrangère. Et la Braïta qui interdisait les langues étrangères parlait effectivement des tfilin et des mezuzot. Tfilin ou mezuzot, maïtama. Pourquoi effectivement y a-t-il une différence entre les tfilin et mezuzot par rapport aux autres livres? Mishum dirtiv be'u ve'hayu be'avayatan yiyu. Puisque c'est écrit dans le texte des tfilin et mezuzot ve'hayu, et ils seront, la Torah exige qu'ils restent tels quels. C'est pour cela que s'ils ont subi n'importe quelle modification, ils ne seront plus valables. Demande la Gemara, si tu as raison que la Braïta parlait des tfilin et mezuzot, Maïtargum Shekatvo Mikra Ika. Quel est le verset qui doit être écrit en araméen, qui a été écrit en langue sacrée? Où est-ce qu'on a un verset en araméen dans la section qui parle des tfilin et mezuzot? Bishlama Torah Ika Yegar Saaduta. On pourra comprendre la Braïta et trouver un pasuk en araméen si la Braïta parlait de la Torah, du livre de la Torah. Alors on a le pasuk, le verset qui dit Yegar Saaduta, le monceau de pierre qui témoigne entre Yaakov et Lavan. Et là, acha, maïtargum ika. Mais si tu me dis que la Braïta parlait des tfilin et mezuzot, quel est le verset qui est écrit en araméen dans le texte des tfilin et mezuzot? Et là, lokashia. Alors la Gemara nous propose une nouvelle réponse. Kan be Megillah, kan be Sfarim. La Mishnah qui permettait d'autres langues parlait des livres, tandis que la Braïta qui interdisait les langues étrangères parlait de la Megillah de Esther. Maïtama. Pour quelle raison la Megillah est différente des autres livres et elle ne pourra pas être écrite en langue étrangère? Dirtiba kirtavam vechilshonam. Nous dit le prix Chadash et le Touré Even qu'il ne faudra pas lire kirtavam vechilshonam, mais kirtavam vechizmanam, qui est un verset dans la fin de la Megillah qui nous demande de suivre la teneur des écrits. Demande la Gemara, maïtargum shekatvo mikra ika. Puisque la Braïta parlait d'un verset qui aurait dû être écrit en araméen et qui a été écrit en langue sacrée, et tu me dis que la Braïta parlait de la Megillah, donc il faudra trouver dans la Megillah un verset qui doit être écrit en araméen. Quel est ce verset? Amar Rav Papa, Venishma Pitgam Amelech. Et l'ordonnance du roi sera promulguée. En langue sacrée, on ne dit pas Pitgam, mais on dit Tzivouy ou bien Dvarim. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Rav Nachman Bar Yitzchak nous propose un autre verset. Vechol Hanashim Yitnu Yekar Lebaalehen. Et toutes les femmes témoigneront du respect envers leur mari. Le mot Yekar, qui veut dire respect, est en araméen. En langue sacrée, on dit Kavod. Ici, on termine le Dafayomi du Dafret. Maintenant, on commence le Dafayomi du Daftet. Rav Ashi Amar, Rav Ashi nous propose une nouvelle réponse pour répondre à la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Kitanya Hai, Beshar Sfarim, Verav Yudai. La Mishnah qui disait qu'on pouvait écrire les livres en langue étrangère ne parlait que du livre de la Torah, tandis que la Braïta qui interdisait les langues étrangères ne parlait que des autres livres, qui sont le livre des prophètes et le livre des hagiographes. Verav Yudai, et cela a été dit d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. De Tania, comme on a appris dans la Braïta, Tfilinu mezuzot en nirtavim el ashurit, verabotenu hitiru yevanit. Les tfilines et les mezuzot ne pourront être écrits qu'en langue sacrée. Et nos maîtres ont permis aussi en grec. Demande la Gemara, comment est-ce possible? Ve'aktiv, ve'ayu, c'est écrit à propos des tfilines et des mezuzot, et ils seront. Et on a fait le commentaire que ça veut dire qu'ils doivent rester tels quels et ne subir aucune modification. Et la Emaya, alors on va expliquer la vérité différemment et on va dire Sadi, Sarim nirtavim bechol lashon. Les livres pourront être écrits dans toutes les langues. Verabotenu hitiru yevanit. Et nos maîtres ont permis de l'écrire en grec. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire hitiru? Hitiru, Michal Danakama, Asar. Puisque la Braïta nous dit que sont venus nos maîtres et ont permis une certaine chose, cela voudra dire qu'ils ont permis une chose qui était interdite initialement. Or, c'est faux, puisque la Braïta disait que le premier Tana permettait d'écrire les livres dans toutes les langues. Donc, qu'est-ce que viennent nos maîtres permettre de plus? Et là, Emma, alors il faudra expliquer la Braïta de la façon suivante. Rabotenu lo itiru shirtevu et la yevanit. Initialement, il était permis d'écrire les livres dans toutes les langues étrangères. Puis sont venus nos maîtres et nous ont dit qu'à part la langue sacrée, il sera permis d'écrire les livres qu'en grec. Vetania, et on l'a appris dans la Braïta, Amar Rav Yehuda, afkshe itiru rabotenu yevanit. L'oïtirou et la besefer Torah, ou mishum maase de Talmai Ameler. Et à dire à Yuda, même la permission que nous donnaient nos maîtres d'écrire les livres en langue grecque n'était que à propos du livre de la Torah. Et cela à cause de l'histoire qu'il y a eu avec Talmai, le roi d'Égypte. Mais à propos des autres livres, du livre des prophètes et du livre des hagiographes, il sera interdit de l'écrire en langue étrangère et il sera valable et saint que s'il est écrit en langue sacrée. Et donc la Braïta qui disait que le livre n'est considéré comme un livre saint que s'il est écrit en langue sacrée était les autres livres, le livre des prophètes et le livre des hagiographes, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Quelle est l'histoire qu'il y a eu avec le livre de la Torah et Talmai, le roi d'Égypte? De Tania, comme on a appris dans la Braïta. Maaseh b'Talmai Amelech shekines shivim v'shnaim zkenim v'ichnisam b'shivim v'shnaim batim. Une fois, le roi Talmai a rassemblé 72 maîtres et il les a logés séparément dans 72 appartements différents. Velogil alaem alma kinsan. Il ne leur a pas dévoilé la raison pour laquelle il les a rassemblés. Venichnas etzel kol echad ve'echad ve'amar lahem. Et il est rentré chez chacun séparément et il leur a dit Kit vouli Torah Moshe Rabchem. Écrivez-moi et traduisez-moi la Torah de Moshe Rabbeinu. Nathan HaKadosh Baruch Hu belève kol echad ve'echad etza ve'iskimu kulam le de'a echad. Quand chacun a traduit la Torah sans savoir que son collègue faisait la même chose, Hachem a mis dans le cœur de chacun le même conseil et ils ont tous eu la même pensée à propos des modifications qu'il fallait faire dans la traduction. Ve'katvulo, et voici les modifications qu'ils ont faites. Au lieu de traduire Bereshit bara Elohim, en début Hachem a créé, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Le Dieu a créé au début. Pour ne pas que Talmai dise que c'est une chose qui est appelée Bereshit qui a créé le Dieu. C'est écrit dans le verset Naase Adam, Betsalmenu, Vechidmutenu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et pour que Talmai ne dise pas qu'il y a plusieurs dieux, ils ont modifié le verset et ils ont dit Et c'est Adam, Betselem ou Vidmout. Je vais faire l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et aussi le verset qui disait Vayechal Elohim bayom ha-shvi'i melachto asher asa, vayishbot bayom ha-shvi'i. Et Hachem a terminé la création du monde le septième jour, et il s'est reposé le septième jour. Pour que Talmaï ne dise pas que Hachem a travaillé le septième jour, puisque c'est écrit qu'il a terminé la création le septième jour, donc ça veut dire qu'il a aussi travaillé le septième jour, ils ont modifié le verset et ils ont dit Vayechal bayom ha-shishi, vayishbot bayom ha-shvi'i. Et il a terminé le sixième jour, il s'est reposé le septième jour. Et le verset qui disait Zachar ou Nekeva Beraham, il les a créés mâles et femelles, pour que Talmaï ne dise pas qu'il y a eu deux créations humaines, puisque c'est écrit Beraham au pluriel, il les a créés, ils ont modifié le verset, et ils ont dit Zachar ou Nekeva Berao, velokatvu Beraham. Mâles et femelles, il a été créé, et non pas ils ont été créés. Et le verset qui disait Havan Nerda Venavlasham Sefatam. Allons, paraissons, et ici même confondons leur langage. Pour que Talmaï ne dise pas qu'il y a plusieurs dieux, puisque c'est écrit au pluriel, ils ont changé et ils ont écrit Hava Erda Venavlasham Sefatam. Allez, je vais paraître, et ici même je vais confondre leur langage. Et le verset qui disait Vatitzrak Sarah Bekirba. Et Sarah a ri en elle-même. Pour que Talmaï ne dise pas pourquoi Hachem s'est fâché contre Sarah, comme c'est écrit dans la suite du verset Lamazet Sarah Sarah, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et pourquoi ne s'est-il pas fâché contre Avram, qui a aussi rigolé, comme c'est écrit dans un autre verset Vaipol Avram Alpanav Vaitrak. Et Avram est tombé sur sa face et il a rigolé. Alors pour éviter cette question de la part de Talmaï, ils ont changé le verset et ils ont écrit Vatitrak Sarah Bikrovea. Et Sarah a rigolé avec les membres de sa famille. Et alors c'est normal que puisque Sarah a rigolé en public, tandis que Abraham non, c'est pour cela que Hachem s'est fâché contre Sarah et non pas contre Abraham. Et aussi le verset qui disait Ki be'apam hargu ish uvirtonam ikrushor. Yaakov Avinu disait à Shimon et Lévi, maudite est leur colère, car dans leur colère ils ont immolé les hommes. Et pour leur passion, ils ont frappé les taureaux. Pour que Talmaï ne dise pas que même nos ancêtres, qui est Yaakov, témoignent qu'on a des parents qui ont assassiné des hommes, ils ont changé le verset et ils ont dit Ki be'apam hargushor ou virtonam ikru avus. Car dans leur colère, ils ont immolé les taureaux et pour leur passion, ils ont brisé les mangeoires. Et le verset qui disait Vaikach Moshe et ishto ubanav, vayarkivem alachamor. Moshe amena sa femme et ses enfants. Et les plaça sur un âne. Pour que Talmaï ne se moque pas en disant que même nos chefs n'ont que des ânes, ils ont changé le verset et ils ont dit Vaikach Moshe et Ishtovet Banav, Vayarkivem al Noseb Neadam. Et Moshe amena sa femme et ses enfants et les plaça sur une bête qui sert à porter les hommes, qui est un cheval ou un chameau. Et le verset qui disait Umoshav Bnei Israël, Asher Yashvu Bemitzraim, Shloshim Shana Varbamot Shana. Et le séjour des Bnei Israël depuis qu'ils s'établirent en Égypte avait été de 430 ans. Or, si on fait le calcul exact que nous fait Rashi, les Bnei Israël n'étaient pas en Égypte 430 ans. Alors, pour que Talmaï ne dise pas qu'il y a un mensonge dans la Torah, ils ont modifié le verset et ils ont rajouté « Umoshav Bnei Israël asher yashvu b'mitzrayim ubishar aratzot shloshim shana varbamot shana » Et le séjour des Bnei Israël depuis qu'ils s'établirent en Égypte et dans les autres pays, avait été de 430 ans. Et aussi le verset qui disait Vaishlach et Nare Bnei Israël Vayalu Olot. Au moment où on a reçu la Torah, Moshe chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir des holocaustes. Pour que Talmaï ne dise pas que c'est des gens simples qui ont été envoyés pour recevoir la Torah, pour sacrifier les holocaustes, ils ont modifié le verset et ils ont dit Vaishlach et Zadute Bnei Israël. Et il a chargé les importants du peuple pour aller sacrifier les holocaustes. Et à la fin du même sujet, c'est écrit dans le verset Vel Atzile Bnei Israël Lo Shalach Yado. Pour que cela concorde avec le verset précédent, ils ont changé le mot Atzile et ils ont écrit le même qu'avant Vel Zatute Bnei Israël Lo Shalach Yado. Et Hachem ne laissa point sévir son bras sur les importants d'Israël. On tourne la page et on se trouve dans Daftet Amudbet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On tourne la page et on se trouve d'Av Tet Amud Bet. Le verset nous racontait que Moshe disait au Bnei Israël, Lo chamor echad me'em nasati. Je n'ai jamais pris à un seul d'entre eux son âne. Pour que Talma ne dise pas que c'est un âne que Moshe n'a pas pris, mais il a pris d'autres choses, ils ont modifié le verset et ils ont écrit, Lo chemed echad me'em nasati. Je n'ai jamais pris à un seul d'entre eux une chose enviable. Et aussi le verset qui parlait de l'interdiction de se prosterner au soleil ou à la lune. Et le verset disait, Asher chalak Hashem Elokecha otam lechol ha'amim. Ne te prosterne pas devant eux. C'est ton Dieu qui les a donnés en partage à tous les peuples sous le ciel. Pour que Talma ne dise pas que les autres peuples qui n'appartiennent pas au peuple juif, il sera permis d'adorer les astres. Puisque Hashem dit dans ce verset qu'il a donné les astres en partage aux autres peuples, ils ont changé le verset et ils ont dit, Asher chalak Hashem Elokecha otam le ha'ir le chol ha'amim. Ton Dieu les a donnés en partage pour éclairer à tous les peuples. Et aussi le verset qui disait, Vayelech vayavod Elohim acherim asher lo tziviti. Et si quelqu'un est allé servir d'autres divinités que je n'ai pas ordonnées, tellement il pourra se tromper et comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'autres divinités que je n'ai pas ordonnées, cela voudra dire d'autres divinités que je n'ai pas créées. Et cela veut dire qu'il y a d'autres forces suprêmes. C'est pour ça qu'ils ont modifié le verset et ils ont rajouté Vayelech vayavod Elohim acherim asher lo tziviti le ofdam. Et il est allé servir d'autres divinités que je n'ai pas ordonné de servir. Et quand la Torah interdisait la consommation du lièvre, la Torah nous disait Lo tochlu et arnevet. Vous ne mangerez pas le lièvre. Ve katvulo et tseirat haaglaim ve lo katvulo et arnevet. Ils ont modifié et ils n'ont pas écrit le mot arnevet, lièvre, mais ils ont écrit la bête à courte patte, nous dit Rashi, parce que les pattes de devant du lièvre sont beaucoup plus petites que les pattes de derrière. La raison de cette modification est parce que la femme de Talmaï était appelée arnevet. Shelo yomar, sirkubi ayehudim, veitilushem ishti batorah. Comme ça, Talmaï ne dit pas, les juifs se sont moqués de moi. Et ils ont écrit le nom de ma femme dans la Torah. La Mishnah continuait et disait, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af bisfarim loitiru sheikatvu, ela yevanit. Rabban Shimon ben Gamliel nous disait que même à propos de tous les livres, la seule langue qui est permise, à part la langue sacrée, est la langue grecque. Amar Ravavahu Amar Rav Yochanan, halakha que Rabban Shimon ben Gamliel. Ravavahu a tranché la halakha au nom de Rav Yochanan, comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ve'amar Rav Yochanan, Maïta Amad Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel qu'il permet spécialement la langue grecque? Amakra, Yaft Elokim le Yefet, Vishkon Boal Hashem. Le verset disait que Hashem embellit Yefet et qu'il réside dans les tentes de Shem. Explique Rav Yochanan, Dvarav Shel Yefet, Yiyu Boal Hashem. Les paroles, le langage de Yefet se trouvera dans les tentes de Shem. On tourne la cassette. On était en train d'expliquer dans le Daf Tet Amud Bet pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel nous disait qu'il est interdit d'écrire la Torah en langue étrangère, sauf le grec. Et Rabban Yochanan nous expliquait, puisque c'est écrit Yaft Elokim le Yefet Veishkon Bo Aleshem, le langage de Yefet se trouvera dans les tentes de Shem. Et puisque un des enfants de Yefet était Yavan, la Grèce, c'est ça qui donne la priorité à la langue grecque. Demande la Gemara, qui dit qu'on parlait de cet enfant de Yefet, de Yavan, peut-être qu'on parlait de Ve'ema, Gomer ou Magog, peut-être qu'on parle d'autres langages, d'autres enfants de Yefet qui sont Gomer et Magog. Répond la Gemara, Amar Afriya Bar Abba, Hainuta Ama, la raison pour laquelle on a choisi le grec, Dirtiv Yaft Elokim le Yefet, Yofyuto shel Yefet, Yehebo Aleshem. Hashem va embellir Yefet. Alors d'ici on va dire que c'est la partie la plus belle de Yefet, la langue la plus belle de Yefet, qui se trouvera dans les tentes de Shem. Et puisque parmi les langues de Yefet, la langue la plus belle est la langue grecque, c'est pour ça que c'est celle-là qui a été privilégiée. Avant de continuer la Mishnah suivante, on va faire une introduction. On a plusieurs différences entre le Kohen Gadol et les Kohanim simples. Le Kohen Gadol devra apporter, sacrifier le jour de Yom Kippour un sacrifice spécialement pour lui, qui est un taureau. Et il devra offrir aussi chaque jour comme oblation le dixième d'une mesure appelée Epha. Donc cette oblation s'appelle Assirit Epha. Et s'il y a une question qui a été posée devant le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol s'est trompé dans sa halakha, et son faux enseignement a été appliqué, pour se faire pardonner, il devra amener comme sacrifice expiatoire un taureau. Ce sacrifice s'appelle Par Haba al Kol HaMitzvot. Le taureau qui vient sur les mitzvot qui ont été mal enseignés. Maintenant, le Kohen Gadol, pour être désigné en tant que tel, il avait 8 habits de service, et non pas 4, comme les autres Kohanim, et aussi il était oint avec l'huile d'onction. Cette huile d'onction n'existait que au temps du premier temple, et non pas au temps du deuxième temple. C'est pour cela qu'on avait deux sortes de Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui s'appelait HaKohen HaMashuach, le Kohen qui a été oint, et le Kohen Gadol du deuxième temple, que lui n'a pas été oint puisqu'il n'y a plus d'huile d'onction, celui-là était appelé HaKohen HaMerubeh Gadim, le Kohen qui sert avec plus d'habits. Alors on commence la Mishnah. En ben Kohen Mashuach b'shem en Amishra le Merubeh Gadim. La seule différence qu'il y a entre le Kohen qui a été oint avec l'huile d'onction et celui qui n'a pas été oint, mais qui a simplement un plus grand nombre d'habits, et la part Haba al Kol HaMitzvot. Le Kohen qui a été oint, qui s'est trompé dans son enseignement, pour se faire pardonner, devra amener le taureau appelé Par Haba al Kol HaMitzvot. Tandis que celui qui n'a pas été oint ne l'amènera pas. En ben Kohen Meshamesh, le Kohen She'avar, et la part Yom HaKippurim va'asiri ta'efa. Si pour une raison quelconque, le Kohen Gadol ne pouvait pas faire le service et il a été remplacé par un autre Kohen Gadol, une fois que le Kohen Gadol initial revient à sa place, il est appelé Kohen Gadol Meshamesh, le Kohen Gadol qui est de service, tandis que le Kohen Gadol qui l'a remplacé est appelé le Kohen Gadol She'avar, le Kohen Gadol précédent, ou bien l'ex-Kohen Gadol. Et la seule différence qu'il y a entre ces deux Kohanim, c'est le Par Yom HaKippurim va'asiri ta'efa. Le sacrifice spécial qu'apportait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippur, et l'oblation de chaque jour appelée Asiri ta'efa. Déduit la Gemara, Haleinyan Par Yom HaKippurim va'asiri ta'efa, Zev Zeshavin. On pourra déduire du début de la Mishnah que en ce qui concerne le taureau de Yom Kippur et l'oblation de Asiri ta'efa, les deux Kohanim, le Kohen oint et le Kohen désigné par le nombre d'habits, sont égaux. Et les deux amèneront un sacrifice spécial, un taureau spécial, le jour du Yom Kippour, et les deux devront offrir l'oblation de Asiri ta'efa. Nous dit la Gemara, Matnitim de l'Oker Rav Meir. Notre Mishnah n'a pas été dite d'après l'opinion de Rabbi Meir. Dit Rav Meir, Atania, parce que si c'est Rav Meir, on a pris dans la Braïta, Merubeh Gadim, Mevipar Haba al Kol HaMitzvot. Le Kohen Gadol qui est appelé Merubeh Gadim, qui n'a pas été oint, mais qui est simplement avec un grand nombre d'habits, devra quand même amener le Par Haba al Kol HaMitzvot, d'Ivri Rabbi Meir. Donc pas comme la Mishnah nous disait, que c'est que le Kohen qui a été oint, qui amène le Par Haba al Kol HaMitzvot, mais le Kohen qui a qu'un grand nombre d'habits n'amènera pas le Par Haba al Kol HaMitzvot. Cela n'est pas dit d'après l'opinion de Rabbi Meir, Rachamim Omrim, et non Mevi. Rachamim, eux, pensent que celui qui est que désigné par le grand nombre d'habits n'amènera pas le Par Haba al Kol HaMitzvot. Maïtama de Rav Meir, quelle est la raison de Rav Meir? De Tania, on a pris dans la Braïta, Mashiach. C'est écrit dans le verset à propos du Par Haba al Kol HaMitzvot, Vim, a Kohen HaMashiach. Si c'est le Kohen qui a été oint, etc. En liela Mashuach b'shem en Amishra, Merubeh Gadim Minain, Talmud Lomar, HaMashiach. On sait d'ici que le Kohen qui a été oint est concerné par le Par Haba al Kol HaMitzvot, mais le Kohen qui n'a pas été oint et qui est désigné par le grand nombre d'habits, d'où est-ce qu'on sait qu'il est aussi concerné par le Par Haba al Kol HaMitzvot? Répond la Braïta, puisque c'est écrit HaKohen HaMashiach avec un He entre eux, ça vient inclure aussi le Kohen qui est désigné par le grand nombre d'habits. Et ça, c'était l'opinion de Rabbi Meir. Demande la Gemara, Bemay ou Kimna de l'Okerav Meir. Comme qui on a dit que la Mishnah concordait? Pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Et ma Sefa passe à la fin de la Mishnah et regarde si ça marche. La Mishnah disait dans sa fin, En ben Kohen Meshamesh le Kohen Shavar et la Par Yom HaKippurim Vasiri Ta'efa. La seule différence entre le Kohen Gadol qui est de service et celui qui le précédait n'est que le taureau de Yom Kippour et l'oblation d'Asiri Ta'efa. Ha le Chol Divrei En Zev Zeshavin. Mais en toute autre chose, les deux sont égaux. Atan, le Rav Meir, cela ne concorde que l'opinion de Rabbi Meir, de Tania, comme on a appris dans la Braïta, Ira Bobsoul Uminu Kohen Acher Tartav. Si le Kohen Gadol a été affecté par un problème et on a nommé un autre à sa place, une fois que le problème est réglé, Rishon Choser Lavodato, Vesheni Kol Mitzvot Keuna Gdola Alav, livré Rabbi Meir. Le premier reprend son service. Et le remplaçant est concerné par tous les mitzvot qui concernent le Kohen Gadol. C'est-à-dire, nous dit Rashi, pour faire un service quelconque, il devra mettre les 8 habits du Kohen Gadol. Il n'a pas le droit de se mettre en deuil. Il pourra se marier qu'avec une femme vierge. Et il pourra faire un service, même s'il a un proche de sa famille qui est mort. Ceci sont les halakhot qui concernent que le Kohen Gadol. Telle est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rishon Choser Lavodato. Sheni enoraouy lo le Kohen Gadol velo le Kohen Ediot. D'après Rabbi aussi, le premier reprend son service. Et le deuxième, le remplaçant, ne peut servir ni comme un Kohen Gadol et ni comme un Kohen simple. C'est-à-dire, ni avec les 8 habits du Kohen Gadol et ni avec les 4 habits du Kohen simple. Vema Rabbi aussi, Maase Rav Yosef ben Ulam Mitipori, Sheira Bopsul be Kohen Gadol. ומנהו תחתיו, ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי, לא לכהן גדול, ולא לכהן אדיוט. Nous raconte Rabbi Yossi, il y avait une fois le Kohen Gadol qui a été affecté par un problème quelconque, et il a été remplacé par un Kohen appelé Rav Yosef, le fils de Ulam, de la ville de Tzipori. Et une fois que le problème du Kohen Gadol a été réglé, on dit les chachamim, le premier reprend son service, et le deuxième ne fait un service ni comme Kohen Gadol et ni comme Kohen simple. Explique Rabbi aussi la raison de cette halakha. Kohen Gadol Mishum Eva. Kohen Ediot Mishum Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Comme Kohen Gadol, il ne pourra plus servir de peur de rivalité entre les deux Kohanim. Et comme Kohen simple, il ne pourra pas non plus servir à cause de la règle qui nous dit en ce qui concerne le spirituel, on monte toujours le degré et on ne descend pas. Et puisque à un moment il a été nommé en tant que Kohen Gadol, on ne pourra pas le redescendre en tant que Kohen simple. Alors on reprend la question initiale, Resha Rabbanan v'Sefar Rabbi Meir, est-ce qu'il est possible de dire que le début de la Mishnah a été dite d'après l'opinion de Rabbanan, et la fin de la Mishnah a été dite d'après l'opinion de Rabbi Meir? Amar Rav Chisda, oui c'est possible. In Resha Rabbanan v'Sefar Rabbi Meir. Le début de la Mishnah est comme l'opinion de Rabbanan, et la fin de la Mishnah est comme l'opinion de Rabbi Meir. Rav Yosef Amar, Rav Yosef nous propose une autre réponse. Rabbi I, Venasivla, Aliba de Tanaï. L'opinion de la Mishnah est l'opinion de Rebi, qui est Rav Yuda Anassi. À propos du par Habal Kol HaMitzvot, Rabbi était d'accord avec l'opinion de Rabbanan, c'est pour cela qu'il a écrit l'opinion de Rabbanan. Et à propos du Kohen Gadol remplaçant, il était d'accord avec l'opinion de Rabbi Meir. C'est pour cela qu'il a écrit dans sa Mishnah l'opinion de Rabbi Meir. Avant de commencer la Mishnah suivante, on devra de nouveau faire une introduction. L'endroit où on sacrifiait les sacrifices du temple est appelé le Mizbeach, l'autel. Et avant que le temple fût construit, on avait le droit de sacrifier les sacrifices sur ce qui s'appelle une Bama. Une Bama est une estrade, ou si on préfère, un autel provisoire. Nous, on va garder le mot Bama. Et il y a deux genres de Bama. La Bama Gdola, la grande Bama, la Bama principale, et la Bama Ktana, qui est la Bama individuelle. La Bama principale était en fait l'autel du tabernacle du temps des Bnei Israël quand ils étaient dans le désert. Et la Bama individuelle est n'importe quelle Bama fabriquée par un particulier. À part ça, pour comprendre la Mishnah, on va diviser les sacrifices en plusieurs catégories. Il y a les sacrifices facultatifs, comme par exemple les sacrifices rémunératoires et les sacrifices holocaustes. Et il y a les sacrifices obligatoires, comme le sacrifice expiatoire ou bien le sacrifice de Pessah. Parmi les sacrifices obligatoires, il y a les sacrifices particuliers, comme par exemple le sacrifice expiatoire et le sacrifice de Pessah. Et il y a les sacrifices de toute l'assemblée, comme le sacrifice quotidien et le sacrifice complémentaire du jour de Shabbat et le jour des fêtes. Et aussi parmi ces sacrifices obligatoires, il y a une autre division entre le sacrifice à temps fixe, qui est le sacrifice quotidien ou complémentaire, et les autres sacrifices qui n'ont pas de temps fixe. comme par exemple le sacrifice expiatoire, qui dépend du temps où le péché a été commis. Et maintenant, on commence la Mishnah. En ben bama gdola le bama ktana, et la psachim. La seule différence entre la bama principale et la bama individuelle est le sacrifice de Pessah, qui pourrait être sacrifié dans la bama principale, dans la grande bama, et non pas dans la petite bama. Zaklal, telle est la règle. Kolchu nidar venidav karev bebama. Tout sacrifice qui est facultatif et qui peut être apporté à partir d'un vœu qui a été fait en employant le terme neder ou bien le dava pourra être sacrifié dans la bama, c'est-à-dire la petite bama. Et kol sheno nidar venidav eno karev bebama. Mais tout sacrifice qui est obligatoire et qui ne peut pas être sacrifié par une simple promesse, lui ne pourra pas être sacrifié dans la petite bama. Demande la Gemara, Psachim Vetulo, comment la Mishnah pouvait nous dire que la seule différence entre la grande bama et la petite bama est le sacrifice de Pessah? C'est pas vrai, on a d'autres différences. Comme la Mishnah disait elle-même par la suite, que tout sacrifice qui n'est pas facultatif ne pourrait être sacrifié que dans la grande bama et non pas dans la petite bama. Répond la Gemara, Ema que en Psachim. Ne dis pas que la seule différence entre les deux bama est la différence du sacrifice de Pessah, mais tout ce qui ressemble au sacrifice de Pessah, c'est-à-dire tout ce qui est un sacrifice à temps fixe, ne pourra pas être sacrifié dans la petite bama. Mais les sacrifices à temps illimité, s'ils sont facultatifs, ils pourront être sacrifiés même dans la petite bama. Et s'ils sont obligatoires, ils ne pourront pas être sacrifiés même pas dans la grande bama. Or, il faut savoir qu'on a vu dans la Maseret Zvachim qu'un sacrifice obligatoire, même s'il n'est pas à temps fixe, si c'est un sacrifice qui appartient à toute la communauté, il pourra, oui, être sacrifié dans la grande bama. Donc, a priori, on a encore une différence entre la grande bama et la petite bama, qui est le sacrifice obligatoire de la communauté et à temps illimité. Donc, il ne ressemble pas au sacrifice de Pessah et on ne pourra pas l'inclure avec le sacrifice de Pessah. Et il peut être sacrifié que dans la grande bama et non pas dans la petite bama. Alors pourquoi la Mishnah ne mentionnait pas cette différence? Dit la Gemara, Mani Rabbi Shimon I. La Mishnah a été dite d'après l'opinion de Rabbi Shimon. De Tania, comme on a vu dans la Braïta. Rabbi Shimon Omer, Af Tzibur Loi Krivu, Ela Psachim Vechovot Shekavu Elem Zman. Aval Chovot Sheen Kavu Elem Zman, Hacha Vehacha Lokarav. Même l'Assemblée n'a pu sacrifier dans la grande bama que le sacrifice de Pessah, ou bien les autres sacrifices obligatoires et à temps fixe. Mais les sacrifices obligatoires, qui sont à temps illimité, ne pourront être sacrifiés ni dans la grande bama, et ni dans la petite bama. C'est pour cela que la Mishnah n'a pas mentionné cette différence, puisque d'après Rabbi Shimon, elle n'existe pas. Nous continuons la Mishnah suivante. En ben Shilo l'Yerushalayim. Il n'y a pas de différence entre le temple qui précédait le temple de Yerushalayim, et qui a été construit dans la ville de Shilo, et entre le temple de Yerushalayim. À part cette différence, Ela shebe Shilo ochlim kodashim kalim umaaser sheni bechol aroe ou Yerushalayim lifnim minachoma. Les kodashim kalim sont des sacrifices moins stricts que d'autres. C'est pour cela qu'ils sont appelés kodashim kalim, les sacrifices faciles. Alors disait la Mishnah, les kodashim kalim et la dîme appelée maaser sheni devront être consommés dans un lieu saint. Quand le temple se trouvait à Shiloh, ces choses-là étaient consommables dans tous les endroits desquels Shiloh était visible. Tandis que quand le temple était à Jérusalem, ces choses-là étaient consommables que si on les amenait à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Kan vekan, kotche kodashim nechalim lifnim minaklaim. Que ce soit au temple de Shiloh ou bien au temple de Jérusalem, les kotche kodashim, les sacrifices à conditions plus strictes, seront consommables qu'à l'intérieur des murs du temple. Et encore une différence, Kdusha Chilo, on change de page et on se trouve d'Afyud Amud Alef. Alors disait la Mishnah, Kdusha Chilo, Yesh Acharea Heter, Kdusha Yerushalayim, En Acharea Heter. La sainteté du temple de Chilo pouvait être annulée, tandis que la sainteté du temple de Jérusalem ne peut pas être annulée. Explique Rashi, qu'est-ce que ça veut dire annuler la sainteté? Tant qu'on a le temple et l'autel qui se trouve dans le temple, il est interdit de sacrifier n'importe quel sacrifice sur la bama. Et disait la Mishnah, une fois que le temple de Shiloh n'existait plus, sa sainteté est annulée et on pourra de nouveau sacrifier sur la bama. tandis que la sainteté de Jérusalem reste en permanence, et même une fois que le temple n'existe plus, il sera interdit de sacrifier des sacrifices sur la Bama. Ici se termine le Dafayomi du Daf Tet.
Et maintenant commence le Dafayomi du Daf Yud.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Dafayomi quotidiennement en vidéo.